Eh bien, bienvenue sur le cours de F6KGL. Et ce soir, donc, nous allons voir le chapitre 4, tout au moins la première partie du chapitre 4, puisqu'on va le faire en deux soirées. Il est assez long et assez dense. Et on va parler ce soir du journal de bord, de l'exploitation des stations et des sanctions. Alors, petit préambule, c'est toujours important de le rappeler. Il ne faut pas confondre, il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre, ce sont les obligations réglementaires, c'est-à-dire ce qu'il y a écrit dans les textes en vigueur, les textes français et internationaux en vigueur, et évidemment c'est ce sur quoi portent les questions d'examen. Et d'autre part, il y a l'usage ou les habitudes des radioamateurs. On en a déjà parlé la semaine dernière, quand on a vu notamment l'alphabet international et le code Q. Donc on voit, alors c'est pas des obligations en l'occurrence, mais enfin ce sont des règles, et on va voir que dans cette partie-là, eh bien, on a toujours une petite différence entre les obligations réglementaires et l'usage. On va les voir au fur et à mesure. Bon, c'est pas compliqué, mais faut avoir ça en mémoire parce que quelquefois il y a des questions un peu tordues là-dessus. Voilà. Et puis n'oubliez pas que, le texte, où ça, j'en ai déjà parlé, mais il y a eu l'administration a communiqué récemment des projets de modification de texte. Dans ces projets de modification, il y a notamment la suppression du point négatif. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ce n'est pas encore acté, puisque il n'y a rien d'écrit, tout au moins rien de publié au journal officiel, et quand bien même ce sera publié au journal officiel, il faudra attendre 3 mois pour que ça soit mis en œuvre. Tout au moins c'est ce qu'il y a écrit dans le document qui a été présenté récemment aux associations. Voilà, donc voilà. Et tant qu'il y a ce point négatif, attention à ne pas répondre n'importe quoi, et notamment, c'est pas parce que vous écoutez le trafic que pour autant la réponse est dans ce que vous entendez sur la fréquence. Quelquefois, la règle officielle, elle est différente, et donc voilà. Donc, si vous connaissez la règle officielle, vous répondez à la question. Si vous ne la connaissez pas, vous ne répondez pas. Parce que c'est souvent le piège de faire un peu, de chercher un peu dans son vécu d'écouteur. Donc, évitez de répondre. Alors, premier point, c'est le journal de bord. Journal de bord que les radioamateurs appellent gentiment le carnet de trafic. Donc, quand on parle du journal de bord, c'est le journal de trafic ou carnet de trafic des radioamateurs. Voilà une petite différence, mais que voilà, quand on parle de journal de bord, c'est de cela qu'on parle. Donc dans ce journal de bord, on doit consigner tous les éléments qui sont relatifs à l'activité de la station. Quand on parle d'activité, on est bien d'accord que c'est l'émission. Si vous écoutez, l'administration s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est la partie émission. Et donc, vous avez à noter sur votre journal de bord la date et l'heure de communication. Donc la date, pas de problème, ça c'est facile. L'heure, c'est là que ça commence un peu à se compliquer, parce qu'un contact, ça peut durer longtemps. Et donc, moi je dis, l'heure de communication, c'est soit une heure moyenne, soit l'heure de début, soit l'heure de fin. Voilà. Ou une heure comprise entre les deux. Généralement, sur le document du carnet de trafic, il y a heure de début, heure de fin. Mais voilà, nous, on est tenu de consigner la date et l'heure. sans plus de précision. On doit préciser l'indicatif du correspondant. On doit aussi, dans le cas d'un radioclub, on va le voir tout à l'heure, noter l'indicatif de l'utilisateur, donc l'opérateur du radioclub qui opère la station. Donc là, il faudra le noter sur le carnet de trafic du radioclub. Évidemment, le correspondant, lui, il s'en fout que l'on ait un radioclub ou l'indicatif, l'opérateur d'un radioclub, pour lui, c'est la station. Et donc, la station, c'est la station du radioclub. Il faut noter la fréquence d'émission, et on parle bien de la fréquence d'émission, donc attention quand on est sur un relais, où la plupart du temps, ce qui est affiché, ce n'est pas la fréquence d'émission, mais la fréquence de réception du relais. Donc voilà. La classe d'émission, et quand on parle de classe d'émission, c'est bien les classes d'émission qu'on avait vues au premier chapitre, c'est-à-dire les classes avec une lettre, un chiffre et une lettre. Non, l'inverse. Une lettre, un chiffre, une lettre. Non. Si, une lettre, un chiffre, une lettre. Voilà, donc, et non pas écrire BLU ou FM ou tout ce que vous voulez. Donc c'est bien la classe d'émission. Et éventuellement, lorsque la station est en portable ou en mobile, bah, il vaut mieux noter le lieu d'émission. En mobile, je comprends que c'est un peu compliqué, puisque vous êtes peut-être sur la nationale, puis après sur l'autoroute, puis après sur une départementale. Mais voilà. Et donc, pour le lieu d'émission, c'est plus pour les trafics en portable où on va noter, je ne sais pas, l'adresse ou que sais-je, pour définir d'où vous avez émis. Donc, une fois que. Et les questions vont porter sur les quatre premiers points. J'ai vu une fois ou deux, mais il y a très longtemps et pas récemment, sur le lieu d'émission. Voilà, donc en fait il y a cinq points, et le dernier, j'ai jamais pas vu beaucoup de questions dessus. Le journal de bord doit être constamment à jour. Voilà, donc il doit être présenté aux fonctionnaires chargés du contrôle. Donc du contrôle des stations, alors concrètement, c'est qui ? La plupart du temps, ce sont des agents de la NFR qui interviennent dans le cas de brouillage. Et donc, quand ils interviennent dans le cas de brouillage par une station radioamateur par exemple, eh bien, il faut que vous présentiez votre journal de bord pour montrer à quelle heure vous avez émis et voir si ça concorde avec le brouillage en lui-même. Il est évident que si vous n'avez pas émis, vous risquez de ne pas avoir brouillé. Voilà. Donc, évidemment, il vaut mieux qu'il soit à jour et vraiment à jour et qu'il n'y ait pas d'erreur. Il doit être conservé pendant un an à compter de la dernière inscription. C'est tout ce qu'il y a à savoir. C'est les trois points qu'il y a à savoir. Avant 2012, donc ça fait quand même un petit peu de temps, dans la décision qui définissait donc les conditions d'exploitation, on avait notamment le journal, alors qu'ils appelaient ça d'ailleurs le journal de trafic et non pas le journal de bord. Hein, c'est depuis 2012 que le terme journal de bord est utilisé. Auparavant, ça s'appelait journal de trafic, comme pour quasiment, puisque nous on appelle ça, enfin les radioamateurs appellent ça plutôt carnet de trafic, voilà, donc c'était un peu plus, le terme était un peu plus proche. Donc ce journal de trafic pouvait être soit tenu sur un journal à page numérotée et non détachable, donc ça c'est typiquement un livre, enfin un cahier, où on est certain d'avoir l'intégralité des informations et qu'elles ne peuvent pas être modifiées. Exemple, si vous prenez un classeur à anneaux, bah, il suffit de retirer la feuille du classeur à anneaux et de la modifier. Voilà. Alors, une question. L'intérêt de ce journal est donc uniquement de vérifier si brouillage. Exactement. Ça ne sert qu'à ça. Exactement. C'est en fait c'est la NFR qui vérifie en cas de brouillage, ils vont vous demander votre journal de bord. Ce journal de bord peut être soit tenu sur un journal à page numérotée et non détachable, donc c'est ce que je vous disais, le classeur à anneaux. Ben, si vous retirez une feuille et que vous en mettez une autre à la place, vous pouvez faire facilement, vous pouvez modifier facilement les données. Alors que si vous avez un journal à page numérotée, ben, à part, enfin, vous ne pouvez pas du coup retirer des pages avant. Et non détachable, bah, hein, si vous prenez le petit cahier, comment dire, relié par une ficelle, là, bête et méchant, bah, vous êtes certain d'avoir l'intégralité des pages, et donc il y a plus de problème. Donc vous avez l'intégralité du coup des informations, on est censé l'avoir. Le journal de trafic pouvait être tenu de manière informatique. Donc, c'est là où ça se complique un petit peu parce que dans ce cas-là, c'est un peu difficile d'être certain que les données n'ont pas été modifiées ou tout au moins qu'elles n'ont pas été supprimées de manière un peu sauvage. Voilà. C'est tout le problème de l'informatique, soit adapté pour les handicapés et les non-voyants, évidemment, ça c'est. Mais tout ça a disparu en 2012, et on demande juste voilà, que le cahier soit constamment à jour, et qu'évidemment, à jour, ça veut dire que on ne puisse pas, en théorie, modifier les données du carnet de trafic. Voilà tout ce que l'on peut dire sur le journal de bord. Et donc il y a pas mal de questions là-dessus. On va voir. Ça fait quand même quelques petits points qui sont faciles à engranger. Ce serait dommage de passer à côté. On en arrive à l'exploitation d'une station. Alors quand on parle d'exploitation d'une station, c'est savoir comment s'identifier. C'est surtout ça, le savoir. Quand on peut l'utiliser et comment s'identifier. Alors, on a plusieurs types de stations. Alors, premièrement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il n'y a aucun texte français qui définit ces différents cas d'exploitation. La station transportable ou mobile ou maritime mobile, elle n'est pas définie dans les textes français. On parle juste à un endroit. Alors en fait, c'est sur la notification de l'indicatif d'appel où on a une toute petite phrase en bas du document qui dit pour une utilisation portable, mobile ou maritime mobile, l'indicatif d'appel est complété de la lettre PM ou MM. C'est tout. Et donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que c'est qu'une utilisation portable mobile ou maritime mobile, eh bien, il faut revenir aux définitions donc du RR. Et donc, c'est l'article S1, donc le premier pavé, où vous avez les définitions du mobile et du maritime mobile, pas du portable. Le portable, c'est quelque chose qui est typiquement, enfin, c'est plus typiquement radioamateur. Alors, la station fixe, donc c'est votre indicatif, tel qu'il a été défini, tel qu'il a été donné par l'administration. Il doit être utilisé depuis le domicile fiscal principal. Donc, en France, c'est très clair, domicile fiscal principal, c'est celui où les impôts vous adressent les différents relevés. Donc, généralement, c'est votre résidence principale. Mais voilà, vous pouvez faire partie des gens un peu compliqués, où vous avez décidé que votre résidence fiscale, votre domicile fiscal principal, c'est votre résidence secondaire. Voilà, ça existe aussi. Et j'en connais même qui se sont domiciliés chez leurs parents. Voilà. Comme ça simplifie le tout. Donc la station fixe, elle est utilisée depuis le domicile fiscal principal. Alors quand vous faites votre demande d'indicatif, nulle part on vous demande votre justificatif de domicile fiscal principal. Donc voilà, c'est un peu le trou dans la raquette. Nulle part on vous le demande. Donc à la limite, vous pouvez donner ce que vous voulez. Et donc, dans ce cas-là, donc à l'adresse où est indiqué, où est enregistré l'indicatif, vous utilisez votre indicatif sans préfixe ni suffixe tel que. Donc, moi, ici, à la maison, moi, je suis F6GPX, point barre. Lorsque je ne suis pas chez moi, hein, donc si la station n'est pas utilisée à l'adresse qui est notifiée, dans ce cas-là, il y a trois cas possibles, et seulement trois. Dans ce premier cas, la station, elle est transportable. Transportable, alors c'est là où c'est un petit peu le terme français, c'est transportable, mais le terme anglais qui traduit transportable, c'est portable, enfin portable. Et donc, n'oubliez pas que un téléphone portable, en anglais, on n'appelle pas ça un portable phone. On appelle ça un mobile phone. Pas pareil. Donc, transportable, c'est une station qui est construite de manière à être déplacée, mais ne peut pas fonctionner pendant son transport. Concrètement, c'est quoi? C'est, par exemple, votre résidence secondaire, où vous allez en vacances. Voilà, vous louez une villa sur la Côte d'Azur. Évidemment, c'est pas votre adresse fiscale principale. Et vous descendez avec votre station, vous installez votre station dans cette jolie villa, et dans ce cas-là, vous êtes transportable, parce que vous allez transporter votre station. Elle ne peut pas fonctionner pendant son transport, puisque voilà, elle est installée dans cette belle villa. Et donc là, vous allez utiliser votre indicatif avec le suffixe portable, portable en anglais, ou si vous utilisez le morse, à la suite de votre indicatif, vous mettez une barre de fraction et un P. Voilà. Donc ça, c'est relativement simple. Et ça, c'est typiquement un cas qui n'est pas prévu par le RR, parce que le RR va vous considérer comme une station fixe. Une station fixe, pour le RR, c'est une station qui ne bouge pas. Et donc, qui ne bouge pas, ça peut être, donc, elle peut être à votre adresse ou dans votre villa sur la Côte d'Azur. Elle ne bouge pas, la station. Donc ça, elle n'est pas prévue, finalement, dans le RR. En revanche, la station mobile, là, elle est prévue dans le RR. C'est-à-dire que c'est une station qui fonctionne et qui peut être en mouvement ou qui peut par moment s'arrêter. Évidemment, si vous êtes en voiture, c'est pas parce que vous êtes arrêté au feu rouge que pour autant vous allez dire je suis en portable. Vous êtes toujours en mobile. Hein, la définition d'une station mobile pour le RR, c'est une station qui peut être utilisée lorsqu'elle est en mouvement ou pendant des haltes en des points non déterminés. Et donc ça, c'est l'article S1567 du RR, donc c'est là, ce sont les définitions du RR. Et ça, c'est valable pour les stations radioamateurs, mais pour toute autre station. Hein, quand on voit dans le RR des stations mobiles, bah, c'est tout ce qui peut être en mouvement, typiquement un téléphone portable. Le relais du téléphone portable, c'est une station fixe. En revanche, le téléphone portable en lui-même, c'est une station mobile. Petit plus, parce que c'est écrit dans la décision 2012-1241, une station peut être montée sur un aéronef, donc un avion, un ULM, un ballon, tout ce que vous voulez. il faut bien voir que dans le RR, on distingue les stations au sol, les stations satellites et les stations entre les deux, c'est-à-dire qui sont montées sur un aéronef. Et donc, les radioamateurs peuvent installer une station sur un aéronef, mais évidemment, il faut avoir toutes les autorisations nécessaires, et notamment de la DGAC. DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile. Donc, voilà. Et inutile de vous dire que un ballon, ça va marcher. Un ULM, je pense que vous devriez avoir l'autorisation. Un avion, c'est certain, vous n'aurez jamais l'autorisation de la DGAC, et encore moins du commandant de bord. En revanche, ce texte a été fait notamment pour les ballons, puisque le ballon est considéré comme un aéronef au même titre qu'un ULM ou un autre objet qui vole. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, évidemment, ça semble bête, mais si vous utilisez votre station en conduisant, respectez bien le code de la route. C'est pas parce que vous êtes radioamateur que vous êtes exempté de respecter le code de la route et notamment prendre le micro et donc risquer d'avoir un accident soit par inattention ou alors tout simplement parce que vous n'avez pas vos deux mains sur le volant, enfin tout au moins vos deux mains, il y a une des mains qui est prise par le micro. Voilà, donc vous êtes exactement dans le même cas que les personnes qui ont un téléphone portable à la main, donc voilà, il faudrait dans l'idéal avoir les petits micros et les connexions Bluetooth pour être certain que vous respectez le code de la route, mais faites attention parce que je pense que si vous vous faites contrôler avec un micro à la main, ça va être un peu compliqué, surtout enfin, si vous conduisez, évidemment. Si vous êtes passager, il n'y a aucun problème. Mais si vous conduisez, faites attention parce que le fait d'être radioamateur, ça va pas faire que vous allez passer à côté de l'amende. Moi, je le tenterai pas, en tout cas. Donc ça, c'est la station mobile. Et enfin, il y a une troisième station qui est un peu particulière. N'oubliez pas que le RR, en fait, il y a des terres, où il y a donc des pays. Et chaque pays a sa réglementation. Donc si vous émettez en France, vous utilisez la réglementation française. Si vous allez en Belgique, c'est la réglementation belge qui va vous être opposée. Si vous allez en Espagne, même chose, etc. Mais ça, c'est valable sur terre. Quand vous êtes sur mer, et notamment dans les eaux internationales, eh bien là, il n'y a plus de règles. La règle, c'est la règle de votre bateau. Donc, c'est un petit peu... ça semble assez bizarre comme chose, mais du coup, quand vous êtes dans les eaux internationales, je rappelle, les eaux internationales, c'est tout ce qu'il y a à plus de 12 000 nautiques des côtes. 12 000 nautiques, ça fait à peu près un peu plus de 20 km. Donc, si vous êtes à plus de 12 000 nautiques des côtes, vous êtes dans les eaux internationales, et donc, ce qui s'applique, c'est la réglementation du pays, du bateau sur lequel vous vous trouvez. Ça semble un peu space comme truc, mais c'est comme ça. Et donc, dans ce cas-là, la station radioamateur, elle est assimilée à une station de navire. Les stations de navire sont définies dans le S177 du RR. Et c'est stations, donc, et ça c'est dans le code des postes et communications électroniques, ces stations relèvent de l'autorité du capitaine. C'est-à-dire que c'est le capitaine du navire qui définit si qui dit s'il vous donne l'autorisation ou pas d'opérer depuis son bateau. Alors, si c'est un petit voilier, pas de problème, enfin, le capitaine, la plupart du temps, vous le connaissez. Si c'est un cargo ou un bateau de croisière, ça peut être un peu plus compliqué. Voilà. Il y en a qui en ont fait les frais. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est... Alors, dans ce cas-là, on utilise un suffixe un peu spécial, qui est donc le suffixe M, MM. Alors, M, c'est mobile, ou mobile en anglais. Pour les suffixes en maritime mobile, donc maritime mobile, c'est donc slash MM. Et donc vous donnez votre indicatif, vous rajoutez maritime mobile, ou en morse, le slash, enfin, la barre de fraction, est 2 fois M. Voilà. Donc ça, c'est l'exploitation d'une station. Et il y a nombreuses, peut-être pas à chaque examen, mais il y en a assez régulièrement. Avec des cas très tordus, n'oubliez pas que quand vous êtes en mobile, vous n'êtes pas spécialement uniquement en voiture. Vous pouvez être à pied, en vélo, voilà, à partir du moment où vous êtes en mouvement. Donc vous vous baladez à pied, vous êtes mobile. Et si vous trafiquez depuis la station d'un copain, par exemple, eh ben vous êtes en portable. Et c'est pas pour ça que vous êtes obligé de donner l'indicatif de la station que vous utilisez. C'est mieux de le faire, mais ce n'est pas une obligation. Donc c'est la différence entre les obligations et la règle. Et la réglementation. Alors là, on va vous donner des exemples, parce que les exemples, c'est toujours plus facile à comprendre. Exemple, un radioamateur émettant en code morse depuis sa résidence secondaire ou la station d'un autre radioamateur utilisera un indicatif sous la forme F5ABC/P, puisque il est morse. Donc, en code morse, on passe tout, et il n'y a pas d'espace ici, comme j'ai fait, entre le C, la barre de fraction, et le P. Tout ça est attaché. Le cas de la péniche. La péniche n'est pas un bateau. La péniche, elle est dans les eaux territoriales. J'ai jamais vu une péniche dans les eaux internationales, moi. Et donc la péniche, elle est mobile. Non, mais à chaque fois, faut réfléchir. Est-ce que ça peut bouger? Et deuxième question, est-ce que c'est dans les eaux internationales? Si ça peut bouger et que c'est pas dans les eaux internationales, c'est elle. Si c'est dans les eaux internationales et que ce soit un radeau, un voilier, un paquebot, tout ce que vous voulez, mais que c'est sur l'eau, que ça ne vole pas, c'est du MM maritime mobile. Et aussi un avion, ça sera considéré comme du MM, enfin un ballon comme du mobile. Un radioamateur émettant en téléphonie depuis un véhicule ou se promenant à pied, appellera son indicatif d'appel sous la forme Foxtrot 5 Alpha Bravo Charlie mobile. Donc là, du coup, on ne précise pas la barre de fraction. On dit mobile à la fin, point barre. Comme si c'était une lettre. Ou si vous le faites avec un anglophone, vous dites mobile. Et c'est la même réglementation. Une station installée sur un bateau situé dans les eaux internationales, dans les eaux territoriales. Alors, exemple, un bateau qui est au port, à port, ou à l'approche du port dans les eaux territoriales, ou sur un fleuve. tout ça est assimilé à une station mobile. Hein, c'est pas parce que vous êtes sur un bateau, quel que soit le type de bateau, que vous êtes maritime mobile. Il faut que ce soit sur un bateau et qu'en plus ce soit dans les eaux internationales. Une station installée sur un ULM portera un suffixe /M. Ou mobile, si on n'utilise pas le morse et qu'on utilise la téléphonie. Le changement d'adresse. Important. Le changement d'adresse doit être notifié à la NFR. Donc si vous changez d'adresse de votre domicile fiscal principal, il faut que vous communiquiez cette nouvelle adresse à la NFR dans les 2 mois. Alors, vous communiquez à cette adresse, à la NFR dans les 2 mois, vous avez deux possibilités. Soit faites un joli courrier à la NFR, pourquoi pas. Deuxième possibilité, quand même un peu plus sympathique, c'est de la faire en ligne, directement sur le site à NFR. Et en plus, sur ce site, c'est là aussi où vous pouvez mettre à jour votre déclaration PAR, dont on va parler un peu après. Quand vous changez d'adresse, et si votre nouvelle adresse n'est plus, s'il y a un changement de localisation, exemple, vous déménagez en Corse, eh bien, vous allez changer d'indicatif. Si vous restez en France, métropolitaine, hein, j'entends, sauf si vous allez en Corse, mais si vous restez en France métropolitaine, quelle que soit la région où vous allez, vous ne changez pas d'indicatif. En revanche, si vous déménagez et que vous partez en Outre-mer ou que vous déménagez en Corse, vous changez d'indicatif. De même, les Corses qui reviennent en France changent d'indicatif. Voilà. Et donc, on verra les attributions de l'indicatif, non pas à la séance prochaine, puisque ça fait partie de la deuxième partie de ce chapitre. Voilà. Donc, ce changement d'adresse, alors, le changement d'adresse, j'ai fait un slide spécial après, avec la PAR. Alors, attention, les textes en vigueur, donc, la réglementation pure et dure ne règle pas le cas du radio amateur français en déplacement qui n'émet pas depuis le territoire pour lequel son indicatif d'appel lui a été attribué. C'est une phrase très compliquée, très longue, qui dit concrètement que si vous avez... On a les exemples après, ça va être beaucoup plus simple. Exemple. Un radioamateur novice, domicilié en Alsace et émettant depuis son lieu de vacances, soit en Martinique ou à Paris. Il donnera seulement comme information F0ABC/P. Enfin, ou F0 Alpha Bravo Charlie portable. Quand bien même il se trouve en Martinique. Alors, l'usage, c'est-à-dire ce que nous, radioamateurs, on fait, en règle générale, c'est que non seulement quand on va dans un département ou un territoire d'outre-mer, on ajoute le préfixe de sous-localisation, ou lorsqu'on change de département à l'intérieur de la France continentale, on donne le numéro de département. Exemple pour mon F0ABC, quand il va en Martinique, il va plutôt se présenter comme FM, barre de fraction, F0ABC/portable, ou lorsqu'il vient sur Paris, F0ABC, portable 75. Mais ces deux présentations là ne sont pas obligatoires. Elles sont juste conseillées entre guillemets pour essayer que l'interlocuteur, enfin tout au moins le correspondant, comprenne d'où vous venez, et qu'est-ce que vous faites, parce qu'évidemment, si en Martinique il précise pas FM F0 ABC, ils vont se dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là, pour comment il peut être F0 ABC en Martinique. Donc voilà. Donc ça, ce ne sont que des usages, et en aucun cas, c'est la règle, c'est le texte de réglementation. Il n'y a aucun texte de réglementation qui vous obligera à faire ça. Mais c'est juste que c'est mieux, parce que c'est l'usage, ça permet de mieux comprendre où sont basés les gens, et même chose pour F0 ABC portable 75, on va bien se douter que si on l'entend à Paris, c'est qu'il n'est pas en Alsace, hein, surtout sur 144 avec les 10 watts qu'il peut avoir. Voilà. Et évidemment, là, j'ai mis portable, mais ça marche aussi très bien aussi avec le mobile, hein, évidemment. Et donc, on utilise pour la France continentale, tout le monde métropolitaine, on utilise le département ici, c'est aussi pour pointer les antennes. C'est-à-dire que ça permet comme ça, parce que sinon, on tape sur Internet son indicatif, on voit que c'est l'Alsace, on pointe les antennes sur l'Alsace, et pas de chance, il était dans le département 75, même, voilà, parce que portable, on ne sait pas où ça se trouve, et ça peut être n'importe où en France, encore une fois, métropolitaine ou d'outre-mer. Voilà, donc il faut bien avoir ça en tête, et les questions portent toujours sur le portable, typiquement une station corse, qui vient à Marseille faire du portable, eh bien, elle continuera à utiliser l'indicatif TK quelque chose. TK, c'est la Corse, portable. Et pour autant, donc, il pourra être dans sa résidence secondaire en Corse, ou à Marseille, ou à Paris, ou en Martinique. Et donc, ce Corse-là, eh bien, on ne saura pas pratiquement où il se trouve, s'il ne le précise pas. On continue dans l'exploitation d'une station. Alors ça, c'est un petit peu... je ne savais pas trop où mettre ça, donc j'en parle à ce moment-là. C'est l'article L34.9 du Code des postes et communications électroniques, qui nous dit gentiment, les équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles. Alors, c'est quoi les exigences essentielles? Alors, déjà, un, c'est difficile à dire, sans bafouiller, donc, et d'autre part, ce sont toutes les normes liées à la compatibilité électromagnétique. Donc ça, c'est encore un mot assez compliqué à dire. Voilà, faut faire des exercices de prononciation. Et donc cette compatibilité électromagnétique, on en parlera un petit peu plus quand on fera la partie technique de la réglementation. C'est en fait tout ce qui éventuellement peut brouiller, ou inversement tout ce qui, mais c'est moins gênant pour l'environnement, c'est le fait d'être brouillé. Ce qui importe surtout l'administration, c'est le fait que les émissions soient exemptes d'émissions qui ne soient pas désirées et qui donc conduisent à des brouillages. Donc cette compatibilité électromagnétique, elle a deux volets. Elle a un volet émission, l'émission doit être la plus pure possible, et un volet réception. Le récepteur doit ne pas être sujet à trop de problèmes si le signal n'est pas suffisamment fort. Voilà. Donc, Donc cette compatibilité électromagnétique, elle a été reprise, donc tout au moins c'est la transcription, donc le L34-9 là, c'est la transcription d'une directive européenne qui est la 2014-30-CE, qui est une directive européenne, et elle a été transposée dans le droit français par le décret 2015-1084. Donc ça s'adresse à tous les matériels radioélectriques, pas que radioamateurs, tous les matériels radioélectriques qui sont finalement mis sur le marché. Et ces exigences essentielles, c'est le fait que les caractéristiques de l'équipement, on fasse attention à ce que ça ne gêne pas et ça n'apporte pas de brouillage. Donc cette transcription de la directive CEM, c'est notre fameux logo CE qu'on va retrouver sur le matériel le fait d'avoir ce logo CE, ça montre que les équipements ont été soit évalués par un laboratoire agréé ou évalué par un autocontrôle du fabricant. Et donc ça s'appelle un marquage dit déclaratif. C'est-à-dire que le fabricant s'engage en imposant ce logo que il a bien évalué le matériel et que donc le matériel est conforme. Juste un petit point qui, il n'y a pas de question à l'examen, mais il faut le savoir. Pour nous, enfin, si, il peut y avoir des questions, j'en ai pas vu, mais il pourrait y en avoir. Quand on parle d'homologation et d'évaluation par un laboratoire agréé ou par autocontrôle, ça s'applique aussi aux constructions personnelles réalisées par des radioamateurs, et donc on peut évaluer par autocontrôle tous nos appareils, qu'ils soient des constructions personnelles ou des modifications, puisque à partir du moment où vous modifiez un appareil radio, le logo CE n'est plus valable, puisqu'il justement ça a été modifié. Et le fait de modifier nos appareils, ça nous permet de conserver cette évaluation que notre matériel est bien conforme aux exigences essentielles. Voilà. Donc cet article 20.3 du code des postes et communications électroniques est très important parce que surtout ça nous évite de passer par un laboratoire agréé dès qu'on modifie nos matériels ou lorsque on veut construire nos propres stations. Et donc cette exception donc, inscrite dans le code des postes et communications électroniques est confirmée, il y a un petit paragraphe du décret 2015-1084 et dans la directive CEM, qui parle de cette évaluation qui ne s'applique pas aux constructions réalisées par les radioamateurs. Enfin, il y a la directive, la RED, donc la Radio Equipment Directive, donc c'est la 2014-53-UE. Vous voyez qu'elles ont été quasiment votées en même temps, hein, puisque c'est une directive de la 2014-30 et la 2014-53, pardon. Et donc, ces deux directives ont été prises en même temps. Alors, je rappelle, directive, c'est un texte où il y a une date limite de transposition en droit français. En l'occurrence, la directive 2014, qui avait été sortie depuis début 2004, en début de 2014, elle devait être transposée en droit français au plus tard le 31 décembre 2015. Ça a été fait pour la directive CEM, 2015-1084, on est au bout, à la fin de l'année. En revanche, pour la RED, celle-là, on a été, la France, comme d'habitude, a été en retard, et donc c'était à peu près au mois de mars-avril 2016, où elle a été transposée en droit français, et en plus par une ordonnance. C'est-à-dire que c'est même pas un décret, c'est une ordonnance qui, finalement, fait force de loi et doit être ratifiée par le Parlement. Voilà. Et donc, cette RED, cette Radio Equipment Directive, donc la CEM, là, elle n'est pas spécialement orientée matériel radio, c'est n'importe quel matériel électronique, qui est susceptible de générer des émissions, et pas que des matériels radio, typiquement, je dis n'importe quoi, une alimentation à découpage pour éclairer des aquariums, par exemple. Hein. Elle doit être compatible CEM, mais évidemment, elle n'est pas en fait pour faire de la radio, donc elle n'a pas à être compatible RED. En revanche, nous, comme nos matériels, ce sont des matériels radio, eh bien, on a droit à la 2014-30CE et à la 2014-53UE. Et donc, cette directive, elle concerne tout émetteur ou récepteur de radiocommunication, et donc les terminaux dits filaires, donc de communication filaire, donc le téléphone filaire, il n'y en a plus beaucoup, d'accord, mais il y en a encore un peu, sont exclus et ne sont pas concernés par la, et ne sont concernés que par la directive CEM, c'est-à-dire celle-là. Et enfin, il y a une directive, alors c'est une norme, la 301-783, qui définit les caractéristiques techniques à respecter par les équipements radioamateurs mis sur le marché. Donc ça, c'est une autre norme, on en a déjà parlé un petit peu auparavant, mais voilà, ça fait partie, ça a des normes, et cette norme-là, elle rappelle en fait la RED et la CEM. Alors, petit témoignage, je vais vous le dire, ça sera plus simple. Ça, c'était l'année dernière, l'année dernière, un peu plus, ça fait un an et demi, où j'ai eu le témoignage d'un OM qui était confronté à ce marquage CE dans sa vie professionnelle. Alors, première chose, les logos abusifs, ça, il est quasiment plus utilisé, c'était le logo China Export. Alors, pourquoi il est plus utilisé? Parce que maintenant, finalement, tout le monde fait n'importe quoi, puisque tout le monde peut s'évaluer par auto-évaluation. Donc ça sert à rien d'essayer de tricher, on peut mettre le vrai logo, ça ne sert à rien d'utiliser ce logo abusif. Et donc il a plus grande utilité puisque maintenant le marquage n'est que déclaratif. Auparavant, vous deviez en plus produire le papier du laboratoire qui vous avait évalué. Maintenant ce n'est plus obligatoire puisque vous pouvez le faire vous-même. Et donc j'ai rajouté gentiment, le balayeur d'un fabricant peut établir les certificats d'homologation CE. Le seul risque qu'encourt le fabricant et l'importateur, c'est que le matériel soit détruit. Et donc, il n'y a aucune responsabilité qui n'est recherchée. Donc le fabricant, il a perdu peut-être un client, en tout moins il a perdu la marchandise, l'importateur aussi. Et le distributeur, celui qui en final doit le distribuer à l'utilisateur final, celui-là, il n'encourt strictement aucun risque, sauf si c'est lui-même l'importateur. Et le seul risque qu'il a, finalement, c'est d'avoir son matériel détruit. Alors, quelques questions sur le chat. Du coup, pour les versions export débridées, pas d'homologation. Ah, alors, si c'est des versions débridées hors CE, c'est un peu compliqué, tout au moins pour le matériel en direction des États-Unis. Ça peut être problématique, mais en règle générale, à partir du moment où vous avez votre examen radioamateur, vous pouvez utiliser du matériel débridé. Autre question, la RAID apporte quoi de plus que la CEM, à part qu'elle concerne d'autres matériels? En fait, ce sont deux normes qui sont un peu différentes. La CEM, elle va s'intéresser à des niveaux de brouillage, alors que la RAID, elle va s'intéresser au rayonnement non désiré. Typiquement, quand on parle tout à l'heure d'une alimentation à découpage, qui pour alimenter par exemple des lampes, des rampes de LED au-dessus des aquariums, puisque ça on a eu le problème au Radio Club où on a été brouillé par ce type de produit, puisque nos voisins ce sont des aquariophiles et eux ils ont des batteries pas possibles pour mettre au-dessus de leurs aquariums pour que les poissons croient qu'ils sont à la lumière du jour. Et donc ça générait des brouillages énormes, et c'était dû uniquement aux alimes à découpage. Et donc pourtant, sur cette belle alime à découpage, il y avait un joli logo CE. Et donc ça, c'est CEM. En revanche, si c'est du matériel radio, eh bien, non seulement il doit y avoir le brouillage doit être en dessous d'un certain seuil, mais en plus, les émissions, quand il y a des émissions, elles doivent être sur la fréquence souhaitée et pas à côté. Donc, c'est pas exactement les mêmes règles de mesure, quoi. Donc, il y en a une, c'est sur le large spectre pour la CEM, et la RAID, c'est voir si votre émission, elle est bien calibrée, qu'elle est vraiment centrée sur la bande sur laquelle vous émettez et pas à côté. Donc, je vous lis son témoignage. Étant confronté au marquage CE dans mon travail, je peux vous préciser quelques petits points. Depuis 2008, donc ça fait plus de 10 ans maintenant, le marquage CE n'est que déclaratif, c'est-à-dire que la société qui conçoit ou fabrique un matériel peut apposer la marque CE sans passer par un abattoir. En cas d'accident ou de plainte, parce que généralement quand il y a un accident, il y a une plainte qui suit, le tribunal ira chercher la responsabilité du constructeur pour qu'il démontre que le matériel est conforme aux normes. Donc une société française préfère avoir un certificat d'un laboratoire pour se protéger lorsque sa responsabilité est recherchée. Le problème est qu'un tribunal français n'ira jamais chercher la responsabilité d'une société au fin fond de la Chine, surtout que les lois européennes ne s'appliquent pas forcément à ces personnes. Mais le droit du commerce international s'applique à l'Europe, qui ne peut empêcher l'importation ou la vente de matériel marqué CE. Voilà. Donc, on est un petit peu... on a réussi à faire quelque chose de complètement fou. C'est que malgré que ce soit marqué CE, finalement le logo CE ne sert strictement à rien. Voilà. Auparavant c'était à peu près un gage de qualité, maintenant, voilà. Et effectivement, zéro niveau, les deux normes peuvent être auto-évaluées. Ces deux normes peuvent être auto-évaluées. Enfin, tout au moins le marquage, quand c'est du matériel CEM, donc c'est CE, et quand c'est un marquage, enfin quand c'est du matériel radio, c'est toujours CE, mais on fait référence à une autre, enfin tout au moins dans les notices techniques, on fait référence à une autre, enfin à deux normes différentes. Voilà, et juste pour le fun à la fin, ceci dit, j'ai déjà vu du matériel conçu et réalisé par une société française avec un marquage CE, fait par autodéclaration qu'il y avait des tensions de 1500 volts, de 1500 volts accessibles à main nue. Voilà. Donc ça, ça fait pas partie de la CEM, mais c'est d'autres. Ça fait partie, ça des. C'est laquelle? Celle-là, c'est la. C'est une EN. C'est la EN qui parle des réinjections des fréquences réinjectées dans le réseau EDF. Voilà. Donc c'en est encore une autre, mais vous avez des tas de normes qui et à partir du moment où il y a marqué CE, c'est que ça correspond à toutes les normes. Et vous avez les normes généralement sur la notice technique de l'appareil. Exploitation d'une station. Alors, on en arrive à notre déclaration PAR. Alors, cette déclaration PAR, elle a fait couler beaucoup de salive et d'encre, pas tout le moins pas d'encre, mais de sur. Fait l'objet de pas mal de commentaires sur les claviers. Au départ, ça partait d'un bon sentiment en 2007. C'était que, dans le vent un petit peu de tout ce qui se disait autour des antennes relais de télécommunications, il avait été prévu que on fasse une sorte de constat, de plan, avec tous les émetteurs possibles et imaginables en France. Donc, les téléphones mobiles, évidemment, les stations de télévision, les stations radio, etc., etc. Donc ça, c'est la loi, les ambulances, les pompiers, toutes les stations, sauf les radiomètres. Et donc, ça, c'était l'arrêté de 2007. Entre-temps, l'eau a coulé sous les ponts, et en 2012, on est passé aussi. On a été obligé d'y passer, et donc cet arrêté du 17 décembre 2007 a été modifié en y ajoutant les stations radioamateurs. Et donc là, on demande finalement la station, la puissance apparente rayonnée. Alors, plus exactement, dans l'arrêté du 17 décembre 2007, la base de données de ces stations professionnelles, elle est publique. Ok, vous allez sur un site internet, vous tapez Carto Radio et vous allez tomber sur toutes les installations radio professionnelles. Voilà, donc vous avez une jolie carte de France. Ça marche la plupart du temps avec Google Earth et vous allez comme ça. Tous les émetteurs sont bien positionnés et donc vous voyez où ils se trouvent, s'ils se trouvent à côté de chez vous. C'était surtout pour rassurer les gens quand ils voyaient une antenne un peu bizarre au-dessus d'un immeuble, c'était pour savoir ce que c'était. Voilà. Et donc, lors de la modification de cet arrêté du 17 décembre 2007 et qu'on a rajouté les radioamateurs, il avait bien été précisé par la NFR qu'en aucun cas les radioamateurs ne seraient jamais ajoutés à Carto Radio. Et à ce jour, c'est toujours vrai. En revanche, la NFR, elle a sa petite base de données au cas où elle soit obligée de changer d'avis. Et donc, cet arrêté modifié impose aux radioamateurs de déclarer les puissances apparentes rayonnées qui sont supérieures à 5 watts. Et en fait, on doit les déclarer dans les 2 mois auprès de l'ANFR sur le même site que l'on déclare notre adresse. Donc, les informations recueillies par l'ANFR au niveau de cet ART, c'est quoi? C'est l'adresse de la station, donc qui va définir votre préfixe. Les coordonnées géographiques de la station, donc c'est le format WSG84, c'est les coordonnées GPS, et ça permet à la NFR de positionner sur Google Earth exactement où va être pas sur carte radio parce qu'on n'y est pas, mais au cas où, elle sait parfaitement où se trouve votre station. Et la PAR qui va être utilisée dans les quatre gammes d'ondes suivantes. HF, VHF, UHF, SHF. Voilà. Donc, cette déclaration PAR, elle est obligatoire à partir du moment où vous avez un indicatif radio. Évidemment, si vous n'avez aucune station à l'adresse indiquée de votre à l'adresse indiquée de votre indicatif et que toute votre station se trouve dans votre maison de campagne, et donc dans ce cas-là, vous allez utiliser le suffixe portable à votre indicatif, et surtout, vous n'allez rien donner comme information à la NFR sur la puissance que vous utilisez à votre résidence secondaire. Vous ne déclarez que la puissance, que la PAR qui est utilisée à votre adresse pour l'indicatif. Donc je vais vous présenter juste après le site de la NFR. Donc le matériel d'émission détenu n'a pas à être déclaré. Ce que l'on déclare, c'est pas le matériel, c'est la puissance. Quand on verra, quand on fera la partie technique, ce que veut dire PAR, hein, puissance apparente rayonnée, on verra ce que ça veut dire et comment rapidement on peut calculer ça. Et évidemment, donc même si le matériel d'émission détenu n'a pas à être déclaré, n'oubliez pas de mettre à jour votre déclaration PAR en cas d'acquisition de matériel ou de cession. Voilà. Petit rappel aussi, le matériel de réception en lui-même n'a pas à être déclaré, puisque je rappelle quand même l'écoute est libre depuis 1990, sauf que vous vous souvenez quand même le cas particulier des scanners, et là, malheureusement, la plupart des récepteurs d'aujourd'hui sont tous finalement des scanners, puisque on peut balayer automatiquement l'ensemble des mémoires ou des fréquences entre deux fréquences. On peut balayer toutes les fréquences et en dehors des fréquences des bandes radioamateurs. Donc voilà, je mets un bémol là-dessus, mais sauf que personne ne déclare de réception de scanner auprès du Premier ministre conformément à l'article 226 du Code pénal. Enfin, voilà. On en a déjà parlé de ça la semaine dernière. Quoi dire d'autre là-dessus? Non, vous avez ici, je vous ai mis le lien pour la déclaration en ligne. Donc je ne vais pas cliquer dessus parce que ça ne sert pas à grand chose. En revanche, je vais vous présenter le site. J'ai fait des copies d'écran. Alors, on va essayer d'agrandir un peu le truc. Voilà, donc quand vous arrivez sur le site, on vous demande votre indicatif, le numéro de certificat d'opérateur, donc faut pas l'avoir paumé. Hein. Et votre date de naissance, et ça vous permet comme ça de vous connecter. Alors, il y en a qui vont me dire, ah bah oui, mais alors c'est pas tellement sécurisé comme truc. Je suis un peu d'accord, malheureusement. Et donc vous arrivez sur une jolie page. Et donc là, c'est la page du Radio Club. Donc ce que nous avons déclaré. Donc ici, vous avez l'indicatif. Le certificat d'opérateur du responsable, c'est moi. Voilà, donc Fortin Jean-Luc. Il y a mon adresse mail, l'adresse du Radio Club. Et donc, c'est ce qui va déterminer l'indicatif. Hein, donc, là, l'adresse du Radio Club. Les coordonnées GPS. Donc, en fait, on va sur Google Earth et on récupère les coordonnées GPS. C'est pas super précis, hein, faut pas. On arrive à la seconde, donc grosso modo, on doit avoir un carré qui doit faire 200 mètres sur 400 mètres à peu près, tout au moins à notre latitude, à la latitude de la France. mais ça donne déjà une idée d'où on est. Et puis ensuite, on a les quatre bandes. Alors, on a défini, nous, en HF, en VHF, en UHF, et en SHF, ben, on n'a rien. On n'a pas d'installation, donc on n'a rien mis là. Et pour en HF, en VHF et en UHF, on a mis la PAR, qui est en fait la puissance en sortie d'émetteur, multipliée par le gain, non pas en décibels, mais en rapport arithmétique, de l'antenne. Donc là, en l'occurrence, on a mis 1500 watts, parce qu'on doit avoir 500 watts de puissance avec le linéaire. Et derrière, on a considéré qu'on multipliait la puissance par 3 compte tenu de l'antenne que l'on a et des pertes dans le câble qu'on doit avoir. Voilà. Alors, c'est assez approximatif, mais ça donne déjà une idée de ce que l'on... de la puissance qu'on peut utiliser au Radio Club, c'est pas des puissances extraordinaires. Et la NFR est content avec ça. Et une fois qu'on a rentré tout ça, ben on fait valider, et voilà. Et roule, c'est parti. Et quand on modifie, évidemment, on a un accusé de réception de la part de la NFR. Alors, si on est en liste orange et on ne peut pas utiliser le site pour déclarer sa station, on est obligé de passer par la poste. Ah, donc ça, je sens que Maxime a voulu passer en liste orange. Alors, et si donc on est en liste orange, on ne peut pas passer par là. Voilà. Bon. Voilà ce que l'on peut dire. Oui, ici, je vous ai mis... Donc si vous allez sur Google, l'endroit où pointe votre curseur, là, il est indiqué ici la position GPS. Et c'est ça que vous reprenez, évidemment, vous n'allez pas au-delà de la seconde. Puisque Google Earth, lui, va largement, puisqu'il indique les centièmes de seconde. Ce qui n'est pas demandé dans notre cas. Voilà. Alors, on continue sur l'exploitation d'une station radioamateur. Premièrement, le paragraphe 1 du préambule de la décision d'août 1241 indique, et donc ça date quand même de 2012, donc on en parle depuis plus de 10 ans, enfin bientôt 10 ans, au moins, la fixation éventuelle des modalités de connexion des stations radioélectriques du service d'amateur à un réseau ouvert au public, donc c'est les fameux ROP, un ROP, et Internet est un réseau ouvert au public, ne relève pas de la compétence de l'ARCEP, mais du pouvoir réglementaire. Concrètement, c'est le ministre qui doit sortir un décret qui sera donc ajouté dans les décrets simples du Code des postes et communications électroniques. À ce jour, ce texte n'est toujours pas publié. Il est en bonne voie, mais c'est toujours pas fait. Donc, tant que cet arrêté n'est pas publié, eh bien, l'émetteur, ou le relais d'ailleurs, hein, que ce soit l'émetteur, donc la station radioamateur ou le relais, ne peut pas être relié via un réseau Internet. Donc on ne peut pas faire de l'écolink ou du DMR, ni être contrôlé à distance via Internet, donc faire du remote control. Tant que ce texte n'est pas publié, on ne peut pas le faire. Alors, il y en a beaucoup qui le font, parce que c'est toléré, mais quand on regarde le texte, ce texte, ce n'est pas autorisé. Alors, le décret, on n'a jamais été aussi proche de la publication, mais pour le moment, c'est toujours pas fait. D'autre part, on a une joyeuseté dans le texte, dans, 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 dans le préambule de la décision 1241, on nous dit « Des stations peuvent être provisoirement saisies et exploitées s'il y a lieu sans indemnité par décision du Conseil des ministres. » On se dit « Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça ?» Eh bien, en fait, quand on regarde le Code des postes et communications électroniques, on peut réquisitionner du matériel dans deux cas précis. Premièrement, l'état d'urgence, qui peut s'appliquer localement, donc c'est la loi de 1955, hein, alors l'état d'urgence, pour rappel, on a vécu sous l'état d'urgence au niveau national pendant près de 2 ans. Hein. Donc après les attentats du Bataclan jusqu'au 1er novembre 2017, et ça sur l'ensemble du territoire. Et pour autant, pendant ces 2 ans, il n'y a aucune saisie de matériel radioamateur qui a été ordonnée. Voilà. En ce moment, on est dans un état d'urgence sanitaire. Ce n'est pas, c'est pas la même loi. Hein, c'est une autre loi. Plus récente, celle-là, mais c'est une autre loi. Et puis aussi, en cas d'état de siège. Alors, là, on se réfère à l'article 36 de la Constitution. Et dans les deux cas, c'est une décision qui est prise effectivement au Conseil des ministres et qui est appliquée par les préfets. Mais je ne suis pas certain que le Conseil des ministres souhaite un jour réquisitionner les stations radioamateurs. Mais c'est un article, ce 65.1 là du Code des postes et communications électroniques, c'est un article très générique qui s'applique à toutes les stations qui dépendent de ce Code des postes et communications électroniques. Petit aparté sur le fameux projet de décret qui devrait créer le D99.4 du Code des postes et communications électroniques. Donc ça, c'est le texte qui a été communiqué aux associations il y a à peu près un mois, sur lesquelles elles se sont exprimées, en disant la plupart, évidemment, attendent la publication du texte, pas de commentaires particuliers. Donc article 1er, il est créé par le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre 2 du titre 1er du livre 2 de la troisième partie du Code des postes et communications électroniques, un paragraphe 4 qui s'intitule « Conditions d'exploitation des services d'amateurs connectés à un réseau ouvert au public » et qui comprend un article unique ainsi rédigé. L'exploitant d'une station radioélectrique des services d'amateurs et d'amateurs par satellite connectés à un réseau ouvert au public doit prendre toutes mesures pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public. Voilà. Donc en fait, si vous vous connectez à un réseau ouvert au public, faut faire en sorte que vous soyez certain qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui vous prenne, qui prenne votre place. En clair. L'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, donc ça c'est l'ARCEP, et l'Agence nationale des fréquences, ça c'est l'ANFR, peuvent chacune respectivement ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public et aux conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques. Voilà. Donc si votre réseau n'est pas fiable, vous risquez de vous le voir suspendu. Et article 2, le ministre de l'Économie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République. Et évidemment, c'est avec effet immédiat. Donc voilà. On n'en sait pas tellement plus avec ça. Mais en fait, tout ça pour ça, il suffit d'attendre la publication de ce décret et vous pourrez utiliser Internet pour commander à distance votre station ou au contraire communiquer via via Ecolink ou autre joyeuseté pour faire des contacts. Les installations de Radio Club sont utilisées sous la responsabilité du titulaire de l'indicatif. Oui, on a changé de chapitre. De paragraphe. On va parler des installations de Radio Club et des stations répétitrices. Donc, les installations de Radio Club sont utilisées sous la responsabilité du titulaire d'un indicatif d'appel de Radio Club, qui est donc un titulaire d'un certificat d'opérateur CEPT ou AREC. Tout opérateur titulaire d'un indicatif d'appel peut exploiter les installations d'un Radio Club en utilisant l'indicatif du Radio Club suivi de son indicatif personnel. Exemple, moi, quand j'utilise la station du Radio Club, je dis F6KGL opéré par F6GPX. Et si j'utilisais le code Morse, je taperais F6KGL barre de fraction F6GPX. Évidemment, l'utilisateur doit émettre sur une bande et dans un mode et avec une puissance autorisée à sa classe d'opérateur. Ben, moi, je suis classe unique, AREC, donc j'ai droit aux 500 watts en HF, mais évidemment, un opérateur de classe 3, de l'ex-classe 3, celui-là n'aura droit qu'aux 144 et avec 10 watts. Quand bien même, la station peut... au Radio Club, on a beaucoup plus de bandes que le 144 et une puissance supérieure à 10 watts sur le 144. Pour rappel, par rapport à ce qu'on avait dit au début sur le journal de bord, donc le journal de bord du Radio Club indique les indicatifs des opérateurs qui utilisent la station. Et ça, c'est écrit dans la décision, dans l'article 6 de la décision 12241. Alors, rapidement, mais parce que je l'ai rayé, il était prévu, dans le projet de texte publié en avril 2018, un morceau qui concernait la préparation des candidats dans les radioclubs. Donc, les candidats pouvaient, lors de leur inscription à l'examen, donner l'indicatif d'un radioclub, et donc dans ce cas-là, il pouvait émettre temporairement en utilisant l'indicatif du radioclub et du tuteur qui était derrière eux en même temps que derrière eux à la station. Et donc ça se faisait sous la surveillance et la responsabilité d'un opérateur AREC présent à ses côtés. Enfin, ce projet de texte a été visiblement supprimé. Alors, encore une fois, ça peut revenir. Mais voilà, pour le moment, il a été supprimé dans la dernière version que j'ai vue. Donc, on n'en parle plus. Peut-être ça reviendra dans quelques temps. Une station répétitrice, maintenant, c'est quoi ? Ça peut être soit une balise de fréquence, soit un relais, donc une installation automatique. Donc, une balise, c'est un émetteur qui émet généralement une puissance assez réduite, qui permet de savoir s'il y a de la propagation. Si vous entendez par exemple ici la balise de Lannion, c'est que donc Lannion c'est en Bretagne, c'est qu'en règle générale, la propagation dans cette direction fonctionne à peu près. La balise de Lannion, elle est sur 144, donc si on l'entend de la région parisienne, c'est que on a toutes les chances d'entendre un autre correspondant de ce qu'on a. Donc, typiquement, ça, ce sont les balises, elles sont en règle générale en VHF, en UHF. En HF, il n'y a pas grand intérêt. Et puis un relais, bah, c'est une installation automatique, donc ça répète finalement tout ce qu'il entend sur une fréquence. Voilà, donc donc selon les bandes, eh bien, il y a des shifts, donc l'écart entre la puissance entre la fréquence d'émission et la fréquence de réception qui n'est pas le même. On peut aussi avoir des relais qui sont cross-bandes, c'est-à-dire réception sur une bande et émission sur une autre bande. Voilà, donc tout ça, on peut avoir toutes ces combinaisons-là. Il n'y a pas de question en tant que telle sur ce que c'est qu'une balise, ce que c'est qu'un relais. En revanche, il y a quelques questions qui tournent autour des conditions techniques de ces balises et de ces relais. Donc la station répétitrice, donc encore une fois, ça peut être une balise ou un relais. Voilà, après, il faut adapter un petit peu la réglementation selon que c'est une balise ou un relais. Donc, la station répétitrice pourra être établie sur un autre site que celui de la station de l'utilisateur, parce que on peut imaginer une balise, enfin, qu'un radioamateur mette en route une balise avec son propre indicatif. Et dans ce cas-là, c'est mieux pour le radioamateur qui fait ça que ce ne soit pas à son domicile, parce que sinon il risque de se brouiller lui-même. Donc voilà. Donc cette station répétitrice pourra être établie sur un autre site. Et cet utilisateur doit être titulaire d'un indicatif autre que classe 3. Donc les ex-novices, enfin les F0, n'ont pas le droit d'être d'être les opérateurs d'une balise. La balise, comme le relais, mais surtout le relais, ne pourra pas servir à un usage personnel ou à un groupe restreint. Donc les codes d'accès notamment, donc les CTCSS ou autres codes qui permettent de déclencher le relais, doivent être publics. Enfin, tout au moins, pas être connu d'un groupe restreint. Ces installations ne doivent transmettre que des informations conformes à la réglementation, c'est-à-dire son indicatif d'appel et les données relatives à sa position, à son fonctionnement, aux conditions locales intervenant sur les conditions de propagation radioélectrique. C'est tout ce qu'ils ont droit, enfin ça c'est donc pour les essentiellement pour les balises. Le relais, il doit donner aussi son indicatif. Régulièrement. Donc au début et à la fin de chaque contact, et au moins une fois toutes les 15 minutes. Et enfin, un dispositif d'arrêt d'urgence doit être prévu, et en cas de brouillage persistant, des mesures appropriées proposées par l'NFR peuvent être imposées. Alors, excusez mon ignorance, mais qu'apporte le lien entre un émetteur et Internet? Et pourquoi ça gênerait les autorités? Alors, ce qu'apporte le lien entre un émetteur et Internet, c'est qu'actuellement, il est interdit de manœuvrer sa station à distance. C'est-à-dire que, typiquement, vous avez une maison de campagne, donc au plein milieu des champs, et vous pourriez utiliser votre station quand bien même vous êtes à Paris, dans votre petit appartement, voilà, au deuxième étage d'une tour qui en fait 50, et donc sans possibilité d'installer une station radio dans votre tour, parce que, ou alors ça devient très compliqué avec les copropriétaires. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir commander à distance votre station. Alors, ça se complique. Enfin, c'est compliqué, hein. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Parce que, du coup, il faut avoir un ordinateur constamment allumé à votre résidence secondaire et que l'émetteur aussi soit, par définition, allumé ou avoir un système qui le mette en route automatiquement. Mais voilà, c'est une des possibilités très intéressantes lorsque ce décret sera publié, ça s'appelle de remote control. Et ça, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'y intéresser, puisque en théorie, devrait être publié assez rapidement maintenant. Alors pourquoi ça gênerait les autorités? Eh bien, parce que du coup, n'importe qui peut. Enfin, on ne sait pas du coup qui émet, parce que quand vous émettez, vous n'êtes pas certain que la personne qui émet soit derrière l'émetteur. Tout simplement. Il peut être à distance. Et donc ça gêne beaucoup les autorités, et notamment pour des questions après de sécurité, c'est-à-dire que comme vous avez une liaison Internet entre les deux, pas n'importe qui, mais il y a des possibilités de hacker cette connexion et d'utiliser votre station à votre sans que vous soyez au courant. Donc c'est un peu ça qui gêne les autorités. Voilà. Pour terminer sur cette connexion à Internet. Et effectivement, ça offre pas mal d'opportunités. Petit point sur les stations, sur les satellites radioamateurs. On a dans la décision 12241 dans le préambule, il y a deux paragraphes, le 3 et le 4, et qui sont intéressants parce que ça rappelle les règles qui sont inscrites d'ailleurs par ailleurs dans le 97.2 du Code des postes et communications électroniques. Les administrations autorisant les stations spatiales du service amateur par satellite doivent faire en sorte que des stations terriennes de commande en nombre suffisant soient installées avant le lancement afin de garantir que tout brouillage préjudiciable causé par des émissions d'une station du service amateur par satellite puisse être éliminé immédiatement. En clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous envoyez un satellite radio amateur, il faut faire en sorte que sur toute la durée du parcours autour de la Terre, il y a un nombre suffisant de stations, et pas que la vôtre, finalement, donc dans un lieu, puisque le satellite, il n'est pas censé passer, il passe au-dessus de chez vous de temps en temps, mais pas très souvent. Et donc, en fait, il faut avoir un ensemble de stations suffisamment nombreux. Alors après, c'est là où ça devient, qu'est-ce qu'on appelle suffisamment nombreux. Pour que les satellites puissent les déconnecter au cas où ils fassent des brouillages. Voilà. Deuxième point, les stations spatiales doivent être dotées de dispositifs permettant de faire cesser immédiatement par télécommande leurs émissions radioélectriques chaque fois que cette cessation est requise en vertu des dispositions du présent règlement. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, c'est logique qu'il faut qu'il y ait des stations terriennes qui puissent, et donc un réseau finalement, une sorte de réseau. La plupart du temps, c'est toujours les mêmes, et elles ont les codes de beaucoup de stations radioamateurs. Typiquement, il y en a une à La Réunion, par exemple, pour tous les satellites qui passeraient au-dessus de La Réunion. Je sais qu'il en existe une aussi en Guadeloupe. Maintenant, en France, il y en a sûrement. Mais après, il faut trouver des endroits un peu répartis comme ça, tout autour de la Terre, qui permettent de télécommander, finalement, la coupure du satellite. Et enfin, l'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire est soumise à autorisation du ministre des communications électroniques, chargé des communications électroniques. Donc ça, j'ai pas vu de questions là-dessus, enfin sauf sur le fait que ces signaux là par télécommande, en fait, ce sont des signaux qui sont cryptés. Hein, c'est le seul cas où les signaux qui sont émis par les radioamateurs peuvent être cryptés, parce qu'évidemment, il n'est pas question que n'importe qui puisse arrêter ou mettre en route un satellite comme ça à la demande. Les sanctions, rapidement, parce puisque je vois l'heure qui tourne. L'article 7.3 de l'arrêté du 21 septembre 2000, donc qui a été modifié en 2009, il y a 10 ans, a rétabli les sanctions, puisque auparavant, en fait, il n'y avait aucune sanction. La seule sanction qui était possible, c'était celle du code des postes et communications électroniques, donc ou du code pénal, donc ça veut dire des amendes très fortes, jusqu'à de la prison. Mais en aucun cas, on ne pouvait suspendre l'indicatif du radioamateur, ce qui était quand même très con. La première chose, c'est de suspendre ou de révoquer l'indicatif du radioamateur. Il gardera toujours son certificat d'opérateur, parce que ça, le certificat d'opérateur, c'est à vie. On ne peut pas le supprimer. En revanche, qu'on peut supprimer, c'est son indicatif. Et donc, ces sanctions, donc, elles sont prévues en cas de manquement à la réglementation. Donc ça peut être soit suspendu pour une période maximum de 3 ans, et donc voilà, c'est temporaire, c'est suspendu, ou c'est révoqué, et donc dans ce cas-là, c'est définitif. Cette décision, elle doit être, comme toute sanction, hein, donc ça doit être motivé, c'est-à-dire qu'on explique pourquoi on a suspendu l'indicatif, proportionnel à la gravité du manquement, parce qu'évidemment, on ne va pas révoquer l'indicatif si on a, je dis n'importe quoi, insulté quelqu'un sur la fréquence. Ça, évidemment, ça doit être proportionnel. Et surtout, ça doit être notifié. Notifié à l'intéressé, donc, il reçoit un courrier recommandé. Et cette décision, elle est prise sur proposition soit de l'ANFR, de l'ARCEP, d'un ministère, ou à la demande d'administrations étrangères ou d'organismes internationaux spécialisés. Alors juste un truc, c'est que ça, c'était un ancien texte. Enfin, un ancien texte qui est toujours en vigueur. Sauf que depuis 2014, le code des postes et communications électronique a été modifié, et que depuis 2014, c'est l'ANFR qui délivre des certificats d'opérateur. Or, là, on dit donc que l'ANFR peut se saisir elle-même pour finalement suspendre ou révoquer un indicatif. Ça, c'est un problème de droit, c'est-à-dire que l'administration ne peut pas se saisir elle-même. Ça doit être quelqu'un d'autre qui doit la saisir. Et donc, ce texte-là devrait être modifié. Il n'a pas toujours... pour rappel, la dernière modification, c'est 2009. Donc, ce texte-là n'a pas été modifié... en 2012, pardon. Il a été modifié en 2012, la dernière fois. Et donc, depuis 2012, il n'a pas été modifié. Or, 2014, il y a cette modification du code des postes et communications électroniques. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qu'il y aurait à modifier dans le texte en vigueur à l'heure actuelle. Voilà, donc l'ANFR, à mon avis, ne peut pas se saisir elle-même. En revanche, l'ARCEP peut le faire, un ministère, maintenant il peut le faire, puisque auparavant c'était le ministre chargé des communications électroniques qui pouvait le faire, qui délivrait les indicatifs. Maintenant, il est juste là pour définir les conditions d'attribution ou le programme de l'examen. Donc là, le ministre pourrait éventuellement proposer une sanction. Et évidemment, c'est après une procédure contradictoire, c'est-à-dire que on va vous demander de venir vous défendre finalement. Et donc, cette décision, elle devait être prise par le ministre chargé des communications électroniques, mais évidemment, maintenant, c'est par l'ANFR, puisque c'est eux qui délivrent et qui suspendent les indicatifs. Voilà, donc ce texte-là, ça fait partie, ça, des modifications dont je parlais, les trois textes-là qui ont été proposés. Évidemment, ça fait partie, ça, des modifications, mais c'est normal, c'est tout juste c'est juste un toilettage du texte. Donc, auparavant, il n'y avait que du pénal, donc c'est des sanctions qui sont là, et donc depuis 2009, on a suspension, révocation. Sauf que, ce que je vous disais, il faudrait mettre à jour qui propose cette décision et qui la prend. Voilà. Les sanctions. Donc ça, c'est dans le code des postes et communications électroniques. Le 39.1 est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de perturber en utilisant une fréquence ou une installation radioélectrique ou d'utiliser une fréquence en dehors des conditions prévues au L33.3. Donc, si typiquement une usurpation d'indicatif, c'est réglé par le L39.1. L39.6, le matériel peut être confisqué ou détruit. L39.8, toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel attribué à une station de l'État ou une station autorisée est punie d'un an d'emprisonnement. Donc ça, c'est typiquement quelqu'un utilise une usurpation d'indicatif. Et donc là, c'est le 39.8 qui peut être utilisé puisque c'est quelqu'un qui va utiliser sciemment votre indicatif puisqu'il a été attribué à une station de l'État. Les indicatifs radioamateurs sont des stations de l'État, enfin tout au moins c'est une station autorisée. Et donc ça fait partie du L39.8. Et donc ces sanctions, ces trois sanctions, elles peuvent être prises suite à la constatation d'une infraction, puis à un jugement. Donc, vous passez devant un juge. Ce n'est pas du pénal, hein, donc c'est pas des juges avec des jurys, etc. Hein, c'est pas des assises, mais c'est un juge. Voilà. La sanction fait suite à la constatation d'une infraction. Et donc, comment on constate l'infraction? Eh bien, grâce au L40, où on nous dit que, outre les officiers et agents de police judiciaire, donc ça, police judiciaire, les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications peuvent rechercher et constater des infractions. Concrètement, les gens de la NFR ont ce sont des officiers de police judiciaire qui peuvent constater des infractions et donc dresser un procès verbal, le transmettre à un juge et puis après convoquer la personne qui a été reconnue coupable et éventuellement prendre une sanction du L39. Donc ça, pour ça, il faut voir le code des procédures pénales. Il faut savoir que les stations radioamateurs, donc ce ne sont pas des, des lieux, ce sont des lieux à usage privé. Donc les officiers de police judiciaire doivent se présenter à des heures bien spéciales. Avec une commission rogatoire délivrée par un juge. Hein, ne regardez pas vos petites séries policières à la télé, c'est pas comme ça dans la vraie vie. Les agents de l'État aussi peuvent intervenir pour des cas de brouillage ou de non-conformité. Là, heureusement, on passe pas devant un juge, mais en fait, ces cas de brouillage, c'est l'ANFR qui intervient en tant qu'expert pour déterminer quelle est la cause du brouillage. Savoir si c'est un problème d'émission ou un problème de non-conformité de l'installation de réception. Voilà. Ah bon, on va passer aux questions d'examen. Donc, ce sont des questions qui ont été la plupart du temps. Elles sont assez anciennes, elles reviennent régulièrement. Il n'y a pas eu de grandes nouveautés ces derniers temps. Je vais vous les signaler. Alors, c'est dur comme sanction pour faire un an de prison. Oui, oui, mais bon, en même temps, c'est peut-être pas, ça ne s'adresse pas que aux radioamateurs, encore une fois. Donc, c'est le code des postes et communications électroniques, ça s'adresse à tous les, à tous ceux qui potentiellement peuvent utiliser un émetteur. Donc, voilà. Après, je ne sais pas si c'est souvent appliqué, mais là, j'ai pas de recul. Mais en tout cas, dans le monde radioamateur, j'ai jamais vu. C'est-à-dire que des plaintes pour usurpation qui terminent par de la prison, j'ai jamais vu. Alors, quel est le renseignement qui n'est pas obligatoire sur le journal de bord? Est-ce que c'est heure et début de communication, la fréquence utilisée, la localisation du relais ou heure et fin de communication? Alors, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la fameuse, c'est la date et l'heure qui est importante d'après le texte. Donc c'est date et heure, indicatif de la station contactée, la fréquence et la classe d'émission. La localisation du relais, ça ne fait pas partie des renseignements obligatoires, même si c'est utilisé par les radioamateurs dans leur journal de bord. Journal de bord, deux petits points, mention obligatoire parmi celles-ci. 1. Heure du contact. 2. Date du contact. 3. Classe d'émission. 4. Fréquence d'émission. 5. Indicatif du correspondant. 6. Lieu d'émission. 7. Report du correspondant. Donc, en réponse, on a 1, 2. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5. Le lieu d'émission, je ne sais pas. Et quand on regarde les réponses proposées, en fait, il n'y a qu'une seule qui me semble bonne, c'est tous sauf 7. Puisque il me faut absolument avoir 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et donc, pour que j'ai 1, 2, 3, 4 et 5, la seule possibilité, c'est la dernière, tout sauf 7, donc le lieu d'émission est bien compris dedans. Donc, quel délai doit-on informer l'administration de son changement d'adresse? Est-ce que c'est 2 mois, 3 mois, 1 an, 1 mois ou 1 an? C'est donc 2 mois. Alors avant 2012, c'était 3 mois. Maintenant, c'est passé à 2. Voilà. Bon, c'est même avant 2008. Donc il faut informer l'ANFR, le pôle de Saint-Dié. Ici, c'est bien la 12 sauf 7. Et la localisation du relais pour la mention non obligatoire sur le journal de bord. Un radioamateur naviguant sur un bateau en pleine mer et émettant sur 144 mégas depuis une station portable s'annonce après son indicatif d'appel. Alors là, il y a des tas d'informations qui sont soit inutiles. La station portable, je pense que c'était pour dire que c'était un talkie-walkie. Voilà. Je pense que c'était surtout pour dire ça. En l'occurrence, on se fout de savoir quel type de station on va utiliser. On est sur un bateau. En pleine mer, donc. Pleine mer, c'est encore un truc pas très précis. On va supposer que c'est dans les eaux internationales, tout le moins c'est ce que veut nous faire comprendre la personne qui a posé la question. Et donc sur 144 mégas, on s'en fout. Et donc après son indicatif d'appel, comme il est en pleine mer, eh bien on va ajouter MM. Le P, parce que c'est une station portable, c'est pas ça. Le M, non, puisque vous êtes en pleine mer, donc dans les eaux internationales. MP, je ne connais pas ce suffixe. Et donc, ça ne peut être que MM. Deuxième question, un radioamateur F1XXX, à pied utilisant un émetteur portatif, se signale en F1XXX portable, F1XXX mobile, F1XXX pédestre, F1XXX mobile pédestre. Non, il est mobile, puisqu'il a un émetteur, il est à pied, donc par définition, il peut se balader, même s'il est assis sur un banc en attendant, il peut se balader, et donc il est mobile, et pour tout le reste, pédestre, ça ne veut rien dire, et mobile pédestre, c'est pareil, ça ne veut rien dire. Donc la seule les seules possibilités seraient les portables ou mobiles. Et en l'occurrence, comme il est à pied, c'est mobile. A-t-on le droit d'émettre à partir d'un avion de ligne? Non, oui. Oui, si le commandement de bord donne son autorisation. Oui, dans l'espace aérien français uniquement. Eh bien, c'est non. Parce que le commandant de bord qui vous donne son autorisation, j'y crois moyen quand même. Voilà, donc c'est non. On est bien d'accord que c'est un avion de ligne qui est écrit. Hein. Ça n'est pas un ULM ou un avion de tourisme ou un ballon. C'est un avion de ligne. Et donc, vous êtes certain que vous n'aurez pas le droit d'utiliser votre station dans un avion de ligne. Un radioamateur a construit un relais. Par qui sera utilisé ce relais? Par les radioamateurs qui l'ont financé. Les radioamateurs en ayant fait la demande auprès d'Arcep, tous les radioamateurs uniquement par lui-même. Alors uniquement par lui-même, il ne faut pas l'intérêt. Par les radioamateurs qui l'ont financé, ça chatouille certains, mais malheureusement, la bonne réponse, c'est par tous les radioamateurs. C'est pas parce que vous n'avez pas participé au financement que vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Voici les réponses. Comment s'identifier un opérateur lorsqu'il exploite la station d'un radioclub? Uniquement avec son indicatif personnel, avec uniquement l'indicatif du radioclub, avec l'indicatif du radioclub suivi de son indicatif personnel, ou l'indicatif du club précédé de son indicatif personnel. Évidemment, c'est suivi. On donne déjà l'indicatif de la station opérée, et on donne son indicatif après, à la suite. Enfin, c'est le bon sens, hein. C'est le bon sens. Et en tout état de cause, on ne donne pas que son indicatif ou que l'indicatif du radioclub. Moi, si on donne son indicatif, il faut dire portable. Et si c'est uniquement l'indicatif du radioclub, c'est pas bon puisqu'on est obligé de donner en plus son indicatif personnel. Alors, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de monde au radioclub qui fasse cet effort de communiquer les deux indicatifs, surtout lors des concours. La plupart du temps, on donne l'indicatif du radioclub, mais pas des opérateurs. Enfin, tout au moins, pas systématiquement. Durée maximum de suspension de l'indicatif en cas de manquement grave, 10 ans, 3 ans, 1 an, 6 mois, c'est 3 ans. Et c'est vraiment la durée maximum. Alors, pour information, je n'ai jamais entendu ni de suspension, ni de révocation d'indicatif. Il y en a peut-être eu, j'en ai pas eu vent, et en tout cas, dernièrement, j'en ai pas entendu parler. Quand une station du service amateur est brouillée sur une fréquence, l'ANFR s'occupe de l'instruction d'enquête de brouillage de la station déclarée. L'instruction d'enquête de brouillage d'émission de faible distance, portée, faible puissance, de donner des conseils pour limiter les brouillages, de vérifier que la station d'amateur est conforme aux exigences essentielles. Ça, c'est une question très récente. Et en fait, la réponse, c'est ça. C'est l'instruction d'enquête de brouillage de la station déclarée. Puisque, par définition, votre station est déclarée, puisque vous l'avez déclarée à l'ANFR sous forme de la déclaration PAR. Donc, elle est là. Et d'ailleurs, si vous avez une plainte pour brouillage, il faut, un, votre journal de bord, on l'a déjà dit, et deux, que votre déclaration PAR soit à jour. Sinon, vous êtes mal. Parce que, évidemment, si vous n'avez rien déclaré, ou déclaré pas la bonne puissance, ça risque de mettre la personne de la NFR un peu de mauvaise humeur. Voilà. C'était juste petite précision. Voilà les bonnes réponses. Et voilà la fin de ce cours. Encore une fois, il y a relativement peu de questions. Les réponses à chaque fois, à part la dernière qu'on vient de voir là, sont relativement logiques. Voilà. Donc, mais surtout, il faut faire très attention à bien lire les questions et les réponses. Et souvent, les questions comme les réponses sont assez longues. Et encore une fois, lors de l'examen, la partie réglementation, ça passe très vite. Donc, faites très attention. Voilà, pas de questions sur le chat de YouTube. Eh bien, je vous souhaite à tous un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.